Bonjour à toutes et à tous, il est 8h. Dans votre matinale, aujourd'hui, on s'attarde sur deux œuvres exposées à l'imaginerie à Bourg. Nos stagiaires ont rencontré Alice Sommersbond et Antonin Guillot. Et aussi, toute cette semaine, c'était l'interview de Stéphane Leprince, responsable du service numérique de l'ADEA. Il vient nous parler du dispositif promeneur du net reconduit dans l'Ain par la CAF et l'ADEA. Aujourd'hui, on est vendredi et c'est donc le moment d'écouter l'interview entière.
Radio B, 90 FM.
Jusqu'au 2 mars, deux jeunes artistes exposent à l'imaginerie 13 avenue Alphonse Baudin à Bourg. Ils nous montrent leur vue du quartier du Plateau et de la ville de Bourg-en-Bresse. Nos stagiaires de cette semaine ont rencontré Alice Sommersbond et Antonin Guillot. On écoute Alice Sommersbond au micro de Marius et Jeanne.
Décrivez votre œuvre préférée.
Alors celle-ci, donc c'est une œuvre qui est en format carré, qui représente une scène de toit, c'est un paysage sur les toits. On voit un petit peu aussi les façades des bâtiments, les cheminées. Et je l'aime beaucoup parce que c'est la première fois que j'ai utilisé cette technique, en fait. Et j'ai bien aimé le rendu. J'ai utilisé de la gouache. Et en fait, par-dessus, j'ai fait toutes les lignes, donc des toits, des façades, avec des crayons de couleur. Des mêmes couleurs, mais du coup, qui font ressortir les lignes, quoi. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait pour celle-là.
Seriez-vous prête à vous en séparer, à la vendre ?
Bah oui, elle était faite pour ça aussi. Et puis en fait, maintenant on peut garder nos images, je les ai scannées, donc je pourrais toujours avoir une trace avec moi.
Est-ce que vous dessinez en face ou est-ce que vous prenez une photo et après vous allez chez vous et vous...
En fait, pour celles que j'ai faites qui sont vues d'en haut, en général des toits, c'est des photos soit que j'ai prises chez des gens, soit qu'on m'envoie. Parce qu'en fait, vous verrez plus tard dans l'expo, j'ai mis un petit mot. Si vous avez des vues de toits à m'envoyer, je prends. Donc ça, c'est d'après une photo que j'ai prise chez une copine. Et après, j'ai fait le croquis directement sur ma feuille et j'ai peint sur mon croquis. Des fois, je fais un croquis et je peins sur une autre. Là, j'ai tout fait sur la même d'après une photo, en fait.
Si vous avez des belles vues de toiture, vous pouvez envoyer vos photos à sommersbond@protonmail.com. Donc sommersbond@protonmail.com. Et maintenant, découvrons une œuvre d'Antonin Guillot.
Décrivez votre œuvre préférée.
Alors, c'est une vue du skatepark. Enfin, c'est vue du skatepark et c'est une vue de la tannerie. On voit un sapin qui prend assez de place dans la page. Et en dessous, il y a la tannerie. Et tout en dessous, on voit un bout du skatepark. Et j'ai bien aimé la faire. En fait, je l'ai fait sur place à la pierre noire. C'est un peu comme un fusain. Et ensuite, je l'ai repris chez moi pour les mettre en couleur sur une autre feuille. J'ai repris complètement le dessin. Et il y avait une belle énergie dans la pierre noire. J'étais assez en forme, pas en forme, mais il y avait de la musique et des skateurs et tout ça, donc j'étais assez motivé pour la faire.
Pourquoi celle-ci ?
Déjà parce qu'elle représente le moment où je l'ai dessinée, et pour ce qui est représenté sur le dessin, la tannerie qui est pour moi un lieu assez cher, où il y a des concerts, où je vais de temps en temps, où il y a pas mal d'amis qui y vont, tout ça. Et la couleur aussi, j'aime bien comme j'ai réussi à la traiter.
Seriez-vous prêt à vous en séparer ou à la vendre ?
Je serais prêt à la vendre. Les dessins sont faits pour être vendus, dans cette expo. Et c'est toujours un plaisir de la voir partir et de voir qu'elle plaît, si on la vend, c'est qu'elle plaît.
Pour découvrir cette exposition colorée et à la cool, comme la décrivent les créateurs, c'est 13 avenue Alphonse Baudin à Bourg-en-Bresse. Des photos de nos stagiaires et de l'exposition sont sur la page Facebook de Radio B.
Radio B.
90 FM. Aujourd'hui, vendredi, on écoute l'interview entière de la semaine. Stéphane Leprince, bonjour.
Bonjour Camille.
Vous êtes le responsable du service numérique de l'ADEA de l'Ain. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel de la structure ?
Alors, l'ADEA est une vieille association burgienne de 1948, les objectifs dans les statuts sont notamment la promotion sociale, culturelle, le développement sur le territoire d'actions de ce type-là. Et depuis cette époque-là, c'est autour de la formation professionnelle qu'on porte ces valeurs. secteur-là, donc avec des tas de formations, de préparations aux métiers différents qui vont aussi bien de la cuisine-restauration jusqu'à l'éducation spécialisée. Et le numérique est transversal dans toutes ces préparations, formations à ces métiers divers.
Et vous agissez pour tout type de public ?
Alors, c'est du public adulte essentiellement. Ou jeunes adultes, voilà, et puis public au travers de l'espace public numérique, donc plutôt du quartier, ça peut être aussi bien des jeunes ados jusqu'à des seniors.
Et pour les jeunes, en partenariat avec la CAF, vous mettez en place le dispositif Promeneur du Net. De quoi s'agit-il ?
Alors c'est un dispositif national en fait qui a été imaginé par la CAF, qui a démarré en fait dans certains départements en 2012-2013 de manière expérimentale et puis qui a été très vite étendu à l'intégralité de la France, sur tous les départements. Et ça consiste en fait à être présent pour les acteurs éducatifs dans ce qu'ils appellent dans le projet la rue numérique, c'est-à-dire là où les jeunes sont, notamment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire poursuivre un suivi éducatif, mais de manière virtuelle, c'est un vrai suivi éducatif, pas virtuel, mais en tout cas sur ce qui est virtuel, c'est-à-dire sur Internet, voilà.
Et ce suivi éducatif, qui est-ce qui va s'en occuper ? Enfin, il y a eu un appel à candidature et l'objectif, c'était d'avoir une vingtaine de professionnels. Du coup, est-ce que ça a été rempli et qui sera le promeneur du net ?
Alors, les dossiers de candidature sont disponibles suite à la matinale qui s'est déroulée donc à la DEA vendredi dernier. Le projet, c'était de la matinale, l'objectif, c'était de présenter des actions de terrain qui sont faites avec les jeunes et le numérique, avec le numérique comme support, comme facilitateur à la relation avec les jeunes. Et puis, après, de présenter le dispositif, les dossiers sont téléchargeables. En fait, les personnes qui étaient, les structures et les professionnels qui étaient présents, donc peuvent utiliser le dossier et candidater jusqu'au 28 février. Et puis à partir de là, avec les collègues de la CAF, de l'Ain, on va sélectionner les dossiers qui nous paraissent le plus pertinents. Ça s'adresse à tous les professionnels en fait, qui sont en lien avec la jeunesse, tous les acteurs éducatifs, ça peut être un animateur en centre social, un éducateur spécialisé, des personnes qui travaillent à la mission locale aussi par exemple, enfin voilà.
Et comment ça va se mettre en place concrètement ? Comment les jeunes ils vont être en lien avec la personne éducative ?
Alors, dans les dossiers qu'on va sélectionner, justement, l'idée, c'est que ces acteurs éducatifs ne soient pas des hotliners, en fait, jeunesse, mais ce soient bien des personnes qui sont déjà en lien avec des jeunes et qui apportent un complément avec une présence aussi en ligne. Et donc, c'est une vraie continuité. L'idée, c'est pas d'aller chercher des jeunes sur les réseaux sociaux et de les contacter alors qu'on ne les connaît pas. C'est bien de proposer un complément et concrètement, c'est par exemple un animateur qui utilise Instagram dans sa structure et qui va valoriser ce qu'il fait, faire connaître aux jeunes ce qu'il peut proposer comme activité traditionnelle, aussi bien sportive, culturelle, et inciter les jeunes à le suivre, et ce qui va permettre en contrepartie, de l'autre côté, de lui d'être en lien avec le jeune et voir par exemple si le jeune peut avoir des pratiques dangereuses, à risque dans ce qu'il publie, par exemple, est-ce qu'il peut se mettre en danger, comment ça peut être repris en face à face quand il retrouve le jeune dans le centre social, par exemple, le centre de loisirs.
Et est-ce que le promeneur il sera en contact avec le jeune uniquement sur Internet ou est-ce qu'il y aura des rencontres ?
Il y a plusieurs manières d'être en contact avec le promeneur. Il peut y avoir aussi une demande de contact de manière anonyme. Donc ça, les promeneurs qui vont s'engager donc, vont avoir des comptes dédiés, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ils vont avoir des comptes avec réellement leur vraie photo, leur vrai nom, mais des comptes comme on peut trouver des comptes dits professionnels, bien là, ce sera des comptes par exemple Facebook, Instagram, Snapchat, avec le nom de la personne et promeneur du net 01. Donc pour bien identifier qui en fait partie, ils sont référencés aussi sur le site national promeneur du net, il y a un annuaire des promeneurs, et ça peut permettre à un jeune, même s'il connaît l'éducateur par exemple, de le questionner de manière anonyme sur des choses qu'il n'oserait pas faire en face à face, une question de sexualité, de toxicomanie, tout ce qu'on peut imaginer qui fait que l'anonymat peut arranger le jeune qui se pose ces questions.
Et vous parliez de pratiques dangereuses ou qui peuvent l'être. Aujourd'hui, quel constat vous faites sur les pratiques numériques des jeunes ?
L'affaire Mila est l'exemple du moment, hein, et et comment en fait et bien des échanges qui prennent des démesures peuvent être amplifiés là où cet ado a voulu couper court aux insultes qui commençaient à sortir et du coup qui l'ont amené vers sa réaction. Et derrière, même si elle a voulu couper court, le phénomène des réseaux sociaux a fait que ça s'est propagé avec le phénomène qu'on connaît. Donc c'est comment prévenir, comment éduquer à ça, à ces dérives. Et être promeneur, ça peut être ça aussi, quoi. Ça peut être aussi réagir à des propos, par exemple des relais de fake news que des ados pourraient propager et partager sur les réseaux. C'est comment on peut réintervenir avec eux, leur demander comment qu'est-ce qui a fait qu'ils ont partagé comme ça aussi vite, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont pas allés chercher la source de l'information, que peut-être il leur manque des outils pour aller vérifier cette information. Donc c'est se servir, utiliser l'opportunité de ce que les jeunes peuvent diffuser pour reprendre avec eux, parce que justement il y a déjà un contact avec ces jeunes, ils se connaissent avec le professionnel, et donc lui il peut se saisir de ce qu'il va voir, ce qui va être diffusé par ces jeunes.
Et donc le promeneur, il aura accès au compte par exemple Facebook du jeune, mais c'est pas pour surveiller, c'est pour le faire réfléchir à ce qu'il publie, des choses comme ça.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut que... C'est toute la finesse du travail du promeneur. Ça va être justement comment ne pas se faire passer pour un espion, l'adulte espion dans le monde des jeunes, et comment plutôt, bien derrière, le jeune va être en confiance et qu'on va chercher plutôt à faire venir le jeune vers son compte professionnel parce qu'il y a des choses pour le jeune qui peuvent l'intéresser et du coup... au même titre qu'il va suivre ses comptes de sa star favorite, de son chanteur favori, l'idée c'est de se dire je vais suivre l'animateur jeunesse parce que si je le suis pas, je vais peut-être louper une activité super sympa qu'il est en train de mettre en place à côté de chez moi, et peut-être il y a une journée jeux vidéo qui m'intéresse, de jouer sur un grand écran de cinéma, ça peut m'intéresser, je vais pas louper ça, donc je vais suivre, et en contrepartie j'accepte d'être suivi aussi par le professionnel.
Et ce dispositif Promeneur du Net, il a déjà été expérimenté, vous l'avez dit. Quels résultats ont été observés?
Alors la difficulté qu'il y avait eu sur la phase expérimentale, ça a été un turnover en fait des personnes qui sont entrées dans le dispositif, parce que ces gens qui se sont engagés à être promeneurs ont changé de poste, et du coup le travail qui a été fait a dû être refait. Ça a été compliqué apparemment de gérer ça en fait, et pour travailler sur un réseau il faut que le réseau il soit à minima stable une fois que les gens se connaissent, travaillent ensemble, donc voilà, ça a été la difficulté. Et ça a été aussi une idée de confier à l'ADEA par la CAF ces questions du numérique qui nous occupent depuis une vingtaine d'années et sur lesquelles on travaille, parce que on peut faire des ponts avec pas mal d'autres projets qu'on porte à l'ADEA sur le numérique. Et monter un réseau de promeneurs du net, c'est ouvrir ces personnes-là à d'autres formations, d'autres événements qu'on peut créer à l'ADEA autour du numérique pour aller vers une sorte de professionnalisation de ces acteurs éducatifs et du numérique, quoi. C'est un premier pas.
Quelques questions sur le numérique en général. Il y a plusieurs écoles et des bibliothèques aussi qui proposent d'utiliser l'outil numérique avec des tablettes notamment. Qu'est-ce que vous en pensez pour les jeunes?
Alors c'est bien, on fait que porter ça. Nous on porte dans le département le déploiement, le développement des espaces publics numériques. Un espace public numérique qui peut avoir plein de formes différentes, et souvent ce qu'on retrouve dans les autres départements et dans l'un compris, ça se développe depuis un moment, ces questions numériques dans les médiathèques, bibliothèques. C'est une manière d'accéder au numérique, c'est une manière d'être en lien avec la médiathèque autrement, et ça peut être vraiment un lieu d'accès et d'accompagnement aux usages numériques, parce que la bibliothèque, la médiathèque est connue dans le quartier, connue dans la ville, mais il n'y a plus simplement que des livres depuis longtemps. Et voilà, c'est des lieux d'accès déjà tout simplement, hein, pour les gens qui font partie de ces 25% qui sont éloignés du numérique, qui ont difficulté. Donc c'est un lieu où on peut se tourner. Et puis, suivant les lieux et les équipes, y trouver de l'accompagnement, des projets, des activités autour de ça.
Et du coup, le numérique, il y en a qui disent, ils disent que c'est un facteur de désociabilité. En gros, les jeunes, ils se rencontrent moins à cause du numérique. Et est-ce que les formations ou les bibliothèques qui proposent le numérique, ça permet de ressouder un peu les jeunes avec les autres?
Alors, suivant les activités qu'on va proposer, c'est sûr que si on organise des choses qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls, je parlais d'un exemple d'organiser, comme ça a pu être le cas, je pense à un animateur sur Châtillon, sur Chalaronne, qui a proposé dans le cinéma de Châtillon une activité jeu vidéo sur grand écran. Bien là, effectivement, le jeune, il n'a pas ça chez lui, avec ses copains, et donc désociabiliser, ça dépend comment on l'entend, parce qu'en en fait, il reste énormément en contact par les jeux vidéo, par les consoles. Quand ils vont s'installer sur le canapé devant la télé, en fait, ils ne vont pas jouer seuls, mais ils vont jouer avec leurs copains. Et proposer une activité au cinéma, ça va peut-être être l'occasion de sortir avec les copains de chez eux, d'enlever le casque qu'ils ont sur la tête pour se retrouver dans un lieu avec des animateurs, avec des professionnels et des jeunes qui connaissent moins. Donc voilà, tout dépend ce qu'on va proposer dans cette médiathèque. Si c'est proposer de découvrir les réseaux sociaux, ils vont partir sur l'idée qu'ils en ont plus à apprendre aux professionnels que les professionnels vont leur apprendre. Donc, voilà.
Du coup, les jeunes, vous pensez que... ils ont besoin de l'aide des adultes ou ils savent très bien faire tout seuls?
Alors, ils sont surprenants dans leur pratique. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'actions de médiation numérique autour des dangers de l'Internet, des dangers des réseaux sociaux. Effectivement, on ne peut pas les nier. Hein. C'était des gens qui intervenaient, des éducateurs, notamment vendredi, autour des problèmes. On parlait de Mila tout à l'heure. Enfin, voilà, il y a des vrais soucis. Mais voilà, comme il y a des soucis sur la route, il y a des accidents de la route et on n'arrête pas de conduire pour autant. Donc là, l'idée, c'est de se dire à un moment que peut-être, oui, effectivement, les discours sur attention, quand on va publier sur Internet, ça va rester 20 ans, et puis il faut faire attention à son identité numérique. La dernière génération, je pense que ce qu'on peut appeler aussi les bornes sociales, ceux qui sont nés avec les réseaux sociaux, la génération d'avant était née avec Internet, il y a la génération maintenant de ceux qui sont nés déjà avec les réseaux sociaux dans leur vie dès la naissance, ils sont surprenants parce que les règles de confidentialité, les paramétrages, ils les connaissent. Le fait d'être passé, par exemple, sur Snapchat et d'avoir délaissé des réseaux sociaux d'anciens comme Facebook, pour eux, c'est aussi savoir que publier, si ça peut disparaître le jour même, c'est pas plus mal. Ça va éviter des traces. Ils ont comme une culture presque innée de ça, et techniquement, voilà, ils savent faire sur cette manière de communiquer ou d'accéder aux loisirs en ligne, tout ce qui est culturel. Par contre, effectivement, faire des démarches administratives, c'est un peu plus compliqué. J'ai le fils d'un copain qui est connecté avec tous les plus grands rappeurs belges et il échange avec eux en direct. Par contre, il était en panique quand il a fallu réserver un billet de train sur la SNCF pour descendre à Lyon. Alors que le site de SNCF est plutôt pas des plus compliqués pour réserver un billet, mais il ne savait pas faire.
Et justement, en parlant de la façon dont on utilise Internet et tout ça, est-ce que les jeunes, ils ont conscience qu'ils peuvent rechercher de l'emploi, faire des démarches administratives, ou est-ce que Internet et le numérique, c'est pour jouer et c'est pour parler avec les copains?
C'est plutôt ça qu'on remarque. Souvent pour les adultes, le discours c'est « ils sont nés avec, nous on est complètement largués avec tout ça ». Non, il y a des choses sur lesquelles ils sont autant largués que les adultes, parce que c'est moins fun d'aller réserver un billet à la SNCF, de faire une démarche sur Pôle emploi, ou d'aller chercher des infos sur le site de la mission locale. C'est forcément plus sympa de se connecter à une console, d'échanger avec les copains, de s'envoyer des photos et de liker sur un réseau social.
Mais donc vous, la CAF et la DEA, vous serez là pour les aider à aller vers ça?
Alors nous, notre rôle, c'est d'accompagner, on ne sera pas directement promeneur, on va coordonner en fait le réseau. L'idée c'est de piloter un réseau d'acteurs, et pour ceux qui s'engagent, ça va être de leur faciliter la tâche, parce qu'on a déjà des gens sur le terrain, c'est ce qu'on montrait aussi vendredi dernier, il y a déjà des gens qui font plein de choses sur le terrain en utilisant le numérique, mais ils font ça tout seuls dans leur coin. Donc être en réseau, c'est pouvoir partager des pratiques, c'est pouvoir être épaulé aussi par rapport à des situations difficiles où on n'apprend pas ça forcément en formation d'animateur ou d'éducateur sur comment je réagis sur ce que je vois sur les réseaux sociaux par rapport aux jeunes. Je vois une pratique dangereuse, qu'est-ce que j'en fais, comment comment je me détache en fait de ma vie professionnelle pour rester dans le perso. Et donc là, dans les dispositifs promeneurs du net, eh bien, il y a un accompagnement par des psychologues et qui travaillent des situations d'analyse de la pratique, d'échange de pratique. Et puis on rajoute des formations pour que justement les promeneurs ne soient pas déconnectés aussi du numérique et pour les mettre à niveau aussi par rapport aux pratiques jeunes. Et donc en fonction des promeneurs, en fonction des départements, ça peut être des formations sur les réseaux sociaux, ça peut être des formations plus larges, hein, ce qui pourrait être laïcité numérique, ou, enfin voilà, des vrais temps de réflexion qui font que bah, ces acteurs ne sont plus tout seuls dans leur coin et peuvent échanger avec d'autres.
Le dispositif, il sera mis en place à partir d'avril en gros.
Voilà, il y a déjà une action fin mars en fait, il y a déjà la formation, la journée de lancement en fait pour les professionnels qui ont été retenus, les structures candidates retenues, donc ça a démarré vraiment, ils vont se rencontrer fin mars.
Stéphane Leprince, merci.
Merci Camille.